Bonjour à toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, les Nations Unies présentent leur plan pour protéger les sites religieux, la coopération Sud-Sud mise à l'honneur à l'ONU, le PAM fournit une aide alimentaire dans le nord du Mali, et en dossier, nous reviendrons sur la situation des enfants en Syrie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a présenté le 12 septembre devant les États membres des Nations Unies un plan d'action pour la protection des sites religieux. Il a qualifié ce plan de nouvel effort important pour lutter contre la haine et la violence dans le monde. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Antonio Guterres a rappelé que le monde faisait actuellement face à une montée de l'antisémitisme, de la haine anti-musulmane, des attaques contre les chrétiens et de l'intolérance envers d'autres groupes religieux. C'est à la suite d'un massacre dans des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, en mars, que le secrétaire général a demandé au haut représentant de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, Miguel Moratinos, de développer un plan d'action pour la protection des sites religieux. Les sites religieux sont des symboles puissants de notre conscience collective. Les lieux de culte du monde entier doivent constituer un havre de paix, propice à la réflexion et à la paix, et non des sites d'effusion de sang et de terreur, a déclaré Antonio Guterres aujourd'hui. Le plan d'action contient des recommandations concrètes pour aider les États membres dans leurs efforts visant à garantir la sécurité des sites religieux et également des recommandations pour l'ONU, les chefs religieux, la société civile et les fournisseurs d'accès en ligne. Le plan recommande ainsi à l'ONU de développer une campagne de communication mondiale pour favoriser le respect et la compréhension mutuelle et de développer une cartographie des sites religieux à travers le monde pour contribuer à favoriser le respect et la compréhension de leur profonde signification pour les individus et les communautés.
Les Nations Unies célèbrent ce 12 septembre la journée pour la coopération Sud-Sud. Pour le secrétaire général de l'ONU, cette coopération entre les pays en développement a déjà fait ses preuves en offrant des solutions concrètes et des approches novatrices pour réaliser les objectifs de développement durable et en transformant de nombreux pays en sources d'appui. Cette année, la journée se concentre sur le passage de l'engagement à l'action qui est facilité par une nouvelle plateforme intitulée Galaxie Sud-Sud. Les explications de Roré Chediak, envoyé spécial de l'ONU sur la coopération Sud-Sud.
L'un des problèmes de la coopération Sud-Sud, c'est que parfois nous savons qu'il y a une réponse à nos défis, mais nous ne disposons pas des mécanismes qui nous permettent d'obtenir cette information. Dans ce contexte, mon bureau a décidé d'offrir une plateforme en tant qu'espace public où les gens peuvent accéder à cette information. Ils peuvent savoir quel type d'expérience existe et où elle se trouve et quelle institution peut l'appuyer et les aider à satisfaire leurs besoins. Vous devez donc d'abord déterminer quels sont vos besoins ou ce que vous voulez contribuer. Et en fonction du besoin que vous identifiez, l'algorithme vous guidera vers différents lieux d'expérience. Si vous voulez vous approvisionner en Argentine, il vous guidera vers la pratique argentine. Mais si vous identifiez votre demande, elle vous montrera les pratiques du monde entier. Elle n'est pas seulement limitée à une zone géographique, vous pouvez élargir ou restreindre votre recherche en fonction de vos besoins ou en fonction de vos connaissances.
Dans le nord du Mali, les effets conjugués de l'insécurité et du changement climatique ont de graves conséquences sur l'alimentation et la nutrition de la population de la région de Gao. Le gouvernement et le PAM, le Programme alimentaire mondial, ont lancé un vaste programme de distribution gratuite de céréales et de compléments alimentaires pour les personnes en situation de pénurie dans la région. Plus de 4000 tonnes seront ainsi distribuées dans la région pour faire face à la période de soudure. On écoute le reportage d'Issa Mahamar Maïga de Mikado FM.
Les populations de la région de Gao souffrent d'un sérieux problème alimentaire selon les données du cadre harmonisé du système d'alerte précoce. Général Sidiki Samake, gouverneur de la région.
Nous avons 22 416 personnes, soit 7% de la population de la ville. C'est que dans son groupe, nous avons 10 584 personnes, soit 6% de la population du cercle. Cercle de Bourin, nous avons 32 668 personnes, soit 21% de la population. Ces données ne tiennent pas compte ni des personnes déplacées internes et rapatriées, ni des victimes d'inondations dont le nombre ne cesse d'augmenter.
C'est pour soulager ces populations que le gouvernement du Mali, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial, ont lancé ce vaste programme de distribution alimentaire gratuite de 4049 tonnes aux couches jugées vulnérables. La représentante du PAM a salué la résilience des populations avant d'assurer que le PAM sera toujours aux côtés du gouvernement malien pour les aider à bien se nourrir.
En Syrie, les civils souffrent toujours de l'escalade de la violence et des déplacements. C'est ce que souligne un nouveau rapport de la commission d'enquête de l'ONU qui alerte sur la situation des dizaines de milliers de personnes déplacées vers le camp d'Al-Hol, dont des femmes et des enfants. On écoute Sergio Pinheiro, président de la commission d'enquête indépendante sur la Syrie, au micro d'Alpha Diallo d'ONU Info et de Riccardo Bagnato Bulgarelli de la RTS.
Ce qu'on a dit dans le rapport, c'est que les normes internationales relatives aux enfants doivent être respectées. Par exemple, on trouve très bizarre cette séparation d'enfants. Jusqu'à 12 ans, ils ne sont pas suspects de terrorisme. Cette séparation n'existe pas dans la Convention des droits de l'homme. Le deuxième principe, c'est le meilleur intérêt de l'enfant. C'est un principe qui doit être respecté. Un autre principe, c'est la non-séparation entre la mère et les enfants. Les situations dans les camps d'Al-Hol sont épouvantables, mais ce n'est pas juste de simplement imposer la responsabilité de cette situation aux groupes qui maintiennent Al-Hol. Je crois qu'il y a une responsabilité partagée avec plusieurs États membres de l'ONU qui sont présents dans les conflits, et spécialement les pays qui ont des ressortissants ou des enfants des ressortissants de leur pays. La Commission croit qu'on doit faire tous les efforts pour rapatrier. C'est-à-dire on ne fait pas d'illusions en croyant que c'est une situation très délicate, très dangereuse même, mais on ne croit pas que les enfants doivent payer le prix de ces risques. C'est-à-dire les enfants doivent être répatriés et aussi recevoir un traitement psychologique, justement pour éviter que vous transformiez ces enfants et ces adolescents en futurs terroristes.
Et parfois c'est difficile de même établir leur nationalité, parce que les Syriens ne veulent pas enregistrer souvent ces enfants comme Syriens s'ils sont de mère syrienne ou de père étranger.
Cela ne peut pas être une excuse. Il y a des moyens pour essayer d'identifier à quel pays ces femmes et ces enfants. Et il y a un autre problème, c'est que plusieurs anciens membres de l'ISIL, maintenant, dans quelques parties du camp, ils essayent d'imposer les règles sur les femmes qui, lorsqu'il existait l'État islamique. Donc, proroger cette situation, c'est augmenter les risques de terroristes dans le pays. Je crois que justement pour éviter cela, il faut agir. Et les États ont des moyens. Et plusieurs États non européens ont répatrié des centaines de ces ressortissants du camp de Al-Hol.
Est-ce que vous avez des chiffres par rapport au nombre d'enfants qui pourraient être apatrides?
Non, on n'a pas. C'est-à-dire, on a des chiffres qui sont dans les rapports sur le décès d'enfants, mais justement parce que toute cette difficulté d'identifier leur nationalité, personne ne l'a. C'est-à-dire, lorsque ceux qui sont dans détention, ces enfants avec plus de 12 ans, et le combattant étranger, il y a des milliers, mais personne ne sait. Il n'y a pas une comptabilité spécifique dans ces prisons et dans les camps d'Al-Hol.
Vous faites aussi une remarque sur les conditions de femmes yazidis. Est-ce que c'est un phénomène qui concerne là aussi beaucoup de femmes?
Le problème dans les camps, c'est que plusieurs fois, les femmes yazidis sont soumises par leur communauté de laisser l'enfant. Parce que quelquefois, ils sont nés de viol, ils ne sont pas des yazidis, et donc les femmes sont soumises à cette choix terrible. Il faut dire aussi qu'à côté de ces femmes qui sont dans les camps, il y a des femmes yazidis détenues en Syrie qu'on ne sait pas où elles sont. Donc il y a une complication supplémentaire, malheureusement pour les femmes yazidis, qui doivent recevoir une attention encore plus poussée.
Est-ce qu'il y a beaucoup de cas de disparition de personnes qui sont revenues dans des zones contrôlées par le gouvernement
syrien? On reçoit beaucoup d'informations, bien sûr, on n'a pas des chiffres. Et dans les rapports, on décrit quelques-uns de ces cas. C'est toujours un risque. Et quelquefois, c'est difficile d'évaluer cela hors de la Syrie.
Vous faites des recommandations aussi vis-à-vis de la coalition guidée par les États-Unis par rapport aux règles d'engagement, notamment pour le bombardement aérien.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire, on fait des recommandations pour tous les partis. La coalition menée par les États-Unis ne pourrait être pas exclue de la même responsabilité que les autres présences dans les conflits.
Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres événements pour que vous fassiez des recommandations à la coalition américaine?
Il n'y a pas de recommandations spécifiques pour la coalition américaine.
Mais disons, vous constatez des destructions indiscriminées.
Oui, qui pourraient même être considérées sous certains aspects comme des crimes de guerre.
Fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.